Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 2, nous lirons les 12 premiers versets de Matthieu 2. Matthieu 2, les versets 1 à 12. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jusqu'ici, la lecture dans la parole de Dieu. J'ai une première question pour les enfants. Est-ce que vous avez déjà vu du brouillard? Bon, on est dans un pays où on arrive à voir de temps en temps du brouillard, sauf ceux qui habitent dans le haut, ne savent pas trop ce que c'est. Mais enfin, vous avez sûrement déjà vu du brouillard. Et la seule possibilité de voir le soleil, si l'on reste dans le brouillard, c'est quoi? Ben, c'est d'enlever le brouillard. Si c'était impossible, on serait toujours dans le brouillard. Heureusement qu'à couvert, c'est possible et que de temps en temps, tu vois le soleil. Eh bien, quand on ouvre la parole de Dieu, qu'on regarde dans la Bible, on est un petit peu comme parfois face à un brouillard. Et pour qu'on puisse voir le soleil de ce que la Bible nous enseigne, il faut que ce brouillard soit enlevé. Et ça, on ne peut pas le faire nous-mêmes. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Et on compte ce matin encore sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu pour enlever ce brouillard et voir le soleil de l'Évangile de Jésus-Christ. La Bible est écrite pour nous présenter Jésus-Christ. Et en fait, tous les détails que l'on trouvera dans la Bible nous sont donnés pour nous aider à mieux le connaître. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les mages d'Orient qui sont venus voir Jésus après sa naissance. En fait, en étudiant qui ils sont, nous comprendrons mieux que Jésus est roi. C'est d'ailleurs le thème du livre de Matthieu. Matthieu veut parler de Jésus en tant que roi. Et je crois que c'est pour cette raison que Matthieu parle de cette histoire des mages, de ce récit. Donc, en apprenant à connaître qui ils sont, nous apprendrons à connaître que Jésus est roi. Deuxièmement, en réfléchissant à leur cheminement pour arriver jusqu'à Jésus, nous comprendrons mieux ce que signifie aller vers Jésus. Ensuite, en regardant leur générosité, nous comprendrons mieux ce que le roi Jésus mérite de notre part. Et en observant leur action, nous comprendrons mieux ce que signifie vivre pour le roi Jésus. Donc vous aurez compris, nous aurons 4 points aujourd'hui. Le premier, qui sont les mages? Le deuxième, le cheminement des mages pour arriver à Jésus. Le troisième, la générosité des mages envers Jésus. Et quatrièmement, l'action des mages influencée par Jésus. Mais le premier point sera de loin le plus développé des 4. Alors, qui sont les mages? Combien sont-ils? Pourquoi sont-ils venus à Bethléem? D'où viennent-ils? Quel est leur nom? Eh bien, le texte de Matthieu, qui est le seul texte que nous avons à propos des mages, nous donne 2 indications. Alors, si vous regardez au verset 2 et 3, nous avons ces deux indications. Au verset 1, il est dit que les mages viennent d'Orient. Ça, c'est une indication qui est écrite. Et une deuxième indication, verset suivant, ils ont vu une étoile en Orient. Donc les mages viennent d'Orient et ont vu une étoile. Alors les enfants, vous avez un petit papier, il y a cette phrase, hein, les mages viennent, il y a un petit espace, d'Orient, il faut écrire d'Orient, puis ensuite ont vu une étoile. Et en fait, dans ce texte et dans la Bible, il n'y a rien d'autre concernant les mages qui sont venus rendre visite à Jésus après sa naissance. Nous ne connaissons pas leur nom. Donc si un jour on vous apprend leur nom, eh bien c'est simplement des inventions. C'est joli, mais c'est des inventions. Si on vous dit qu'ils étaient trois, c'est aussi une invention. C'est écrit nulle part dans le texte biblique. Et ce n'est pas parce qu'il y a trois types de cadeaux qui sont énumérés que cela signifie qu'il y a trois personnes. Mais on peut apprendre d'autres choses encore. On peut apprendre d'autres choses parce que quand les mages arrivent, donc on a vu ce qui était écrit dans Matthieu, on continue à voir ce qui est écrit dans Matthieu, ils suscitent le trouble. Au verset 3, il est écrit « À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. » Et cette expression « fut troublé » nous indique quelque chose sur les mages. Pour que nous puissions... Parce que c'est eux qui ont troublé Hérode et toute la population. Or, cette notion troublée, ce n'est pas juste être curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Et pour que vous puissiez mieux comprendre ce terme, je vais vous donner d'autres passages bibliques qui parlent de ce même terme, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que ça signifie. Le premier, alors là je fais appel un petit peu à votre connaissance, hein, les disciples de Jésus étaient un jour sur la mer, dans un bateau. Et il y avait la tempête. Et dans cette tempête, dans la nuit, tout à coup, ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Et voici ce qui est écrit dans Matthieu 14, 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Le même mot, exactement le même mot, hein, si on prend dans l'original. Ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Donc, les disciples ne sont pas simplement curieux de voir un phénomène ici. Leur trouble est exprimé par de la crainte et par des cris. On commence à déjà un peu mieux saisir qu'est-ce que signifie ce trouble. Un autre exemple concerne Zacharie. Zacharie, c'est le papa de Jean-Baptiste. Et il a vu un ange. Moi, je n'ai jamais vu d'ange. Je pense que ça doit être impressionnant de voir un ange. Et il est dit, dans Luc 1, Zacharie fut troublé en le voyant. Et la crainte s'empara de lui. Le même mot, il est troublé, et là, c'est la crainte qui s'empare de lui. Alors, dans Matthieu 2, le trouble que Hérode et la population a, c'est un trouble qui s'exprime par la crainte et l'inquiétude. C'est le même mot dans Matthieu 2. Donc là, les enfants, hein, pour écrire, un trouble qui s'exprime par la crainte et l'inquiétude. C'est le même mot donc, qu'on trouve dans Matthieu 2. Alors, c'est pas, imaginez bien, c'est pas trois personnes de couleurs différentes sur leur chameau qui vont en fait produire cette peur. Ce serait plutôt de la curiosité qu'ils produiraient. Et si les mages n'avaient pas quelque chose de spécial, une autorité particulière, Hérode n'aurait aucune crainte. Même s'il est vrai qu'il est terriblement suspicieux. Et il ne veut qu'aucun concurrent prenne sa place. Il a même été jusqu'à tuer des personnes de sa propre famille pour garder sa place, c'est vrai. Mais là, il était aussi déjà âgé. Et on va un petit peu apprendre, chercher à connaître ces mages. Est-ce qu'on peut connaître ces mages un peu plus en avant que juste ce texte? Comment les connaître? Est-ce qu'on a d'autres passages bibliques qui parlent de mages? Et même de l'histoire? Eh bien, on va faire un peu d'histoire. On va faire un peu d'histoire ensemble. Nous avons, selon la Bible, et puis pas seulement selon la Bible seulement, vous pouvez le voir dans l'histoire, quatre grands empires dans l'histoire. Alors peut-être que les enfants, vous vous souvenez de l'histoire de Daniel, avec une grande statue, qui avait quatre parties, une en or, une en argent, une en bronze et une en fer. Ça vous rappelle quelque chose, ça? C'est bien. Alors, peut-être vous vous rappelez de la signification. Souvent, on se rappelle de la statue, mais il y a une signification à ces quatre parties, en fait. Et ces quatre parties, en fait, correspondent à des royaumes. Le premier, le royaume babylonien, avec Nebuchadnezzar. Le deuxième, le royaume médo-perse, avec Darius. Le troisième, l'empire grec, avec Alexandre le Grand. Et le quatrième, l'empire romain, avec César. Alors, il y avait d'autres personnages aussi, mais c'est des personnages clés pour ces quatre empires. Et il est intéressant de constater que le peuple Mède est un peuple très ancien qui existait déjà lorsque l'empire babylonien est apparu. Et ce peuple a continué d'exister sous les trois autres empires. Et ils existaient en fait lorsque Jésus est né sous l'empire romain, puisque Jésus est né sous l'empire romain. Alors le terme mage que nous trouvons au verset 3 dans Matthieu 2, fait en fait référence à une tribu d'un peuple mède, dont nous parle par exemple l'historien Hérodote. Or, la tribu des mages était une tribu de prêtres chez les mèdes. Alors ça, vous pouvez noter, les enfants, vous avez vu là, Les tribus de mages étaient une tribu de prêtres chez les mèdes, un peu comme les lévites dans le peuple d'Israël, où la prêtrise était transmise, en fait, de façon héréditaire, de parents à enfants. Or, les Lévites, vous savez ce que c'est, les enfants, les Lévites, dans le peuple d'Israël? Les Lévites, vous avez entendu parler, on ne sait pas, des fois, on ne sait pas trop. Peut-être si je vous parle de... Ah, exactement, les sacrificateurs. Si on parle de Aaron, en fait, ça commence à venir, c'est les Lévites. Eh bien, les Lévites étaient ceux qui servaient dans le tabernacle et ensuite dans le temple. C'est ceux qui transmettaient la parole de Dieu, qui offraient des sacrifices, qui oignaient les rois, etc. Ça, c'est les Lévites en Israël. Et en fait, chez les Mèdes, c'était la tribu des mages qui faisait cela. Et s'ils offraient des sacrifices, eux, par contre, ils ne transmettaient pas la parole de Dieu, mais ce qu'ils lisaient dans les étoiles. C'était des astronomes qui connaissaient bien les constellations et tout ce que l'on peut observer dans le ciel. Et c'était en même temps aussi des astrologues, parce qu'ils introduisaient de la superstition et faisaient des liens entre la position des étoiles et l'histoire du monde ou des hommes. Ces mages avaient une grande connaissance et ils exerçaient toutes sortes de pouvoirs et étaient en fait à la cour des empereurs et ils étaient à la cour des empereurs de l'empereur de Babylone. Et là, à Babylone, ils furent très très influencés par un juif. Qui peut me dire quel juif a bien pu influencer les mages du temps de l'empire babylonien avec Nébuchadnezzar?
Daniel.
Ah ben oui, exactement, c'est Daniel. C'est Daniel, bien entendu. En fait, parce que Daniel, comme il est écrit dans le livre de Daniel, vous pouvez aller le relire, ce livre, mais si vous l'allez plus rapidement, c'est dans 2,48 ou 5,11, il est dit que Daniel a été établi le chef de tous les sages de Babylone par Nebuchadnezzar. Chef de tous les mages, ou magiciens. On traduit ce mot des fois par mage et des fois par magicien, en fait. Donc dans vos Bibles, vous verrez, si vous prenez des traductions différentes en français, parfois c'est écrit mage, chef des mages, donc par exemple dans Daniel 4,6, Belshazzar, donc qui est Daniel avec son nom babylonien, est le chef de tous les mages, ou de tous les magiciens, ou de tous les devins, ou de tous les sages. Enfin, la traduction, on a de la peine à traduire. Vous savez, la traduction, ce n'est pas toujours facile. Le champ sémantique d'un mot est des fois assez large. Mais donc là, Daniel était le chef des mages. Et étant leur chef, il pouvait leur transmettre une connaissance que ces mages n'avaient pas encore apprise, celle des prophéties annonçant le Messie, le roi des Juifs qui devait venir. Il y a donc certainement eu des mages qui se sont tournés vers le Dieu de Daniel, qui a prouvé d'ailleurs à multiples reprises d'être le seul vrai Dieu. On le voit dans l'histoire de Daniel, même l'empereur lui-même reconnaît qu'il y a un seul vrai Dieu. Et donc je crois que Dieu a permis à ce que des mages, par héritage, continuent à avoir cette même foi qu'ils ont reçue, qu'ils ont apprise du temps de Daniel. Il y a donc certains mages qui se sont tournés vers le Dieu de Daniel et qui en fait, de père en fils, se sont souvenus et ont cru à ce Dieu-là. En fait, ces mages que l'on trouve dans Matthieu 2 sont certainement de ces mages-là. Et là, Dieu avait préparé la foi de ces mages. Hein. Les enfants, vous pouvez écrire là. Hein. Dieu avait préparé la foi des mages dans Matthieu 2, des centaines d'années à l'avance, en mettant Daniel à la tête des mages à Babylone. C'est impressionnant. Dieu contrôle toute l'histoire. Donc il a mis Daniel à la tête des mages des centaines d'années avant. Ça s'est transmis pour que des mages puissent avoir cette foi à ce moment-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant les quatre empires qu'on a cités tout à l'heure, hein, donc Babylone, Médo-Perse, Grec et ensuite Romain, les mages avaient un grand pouvoir en Orient. On voit d'ailleurs Daniel à la cour des Babyloniens, puis à la cour des Médo-Perses. Même l'Empire grec et romain, même dans l'Empire grec et romain, il restait une culture et un pouvoir de l'Orient très important. Et les mages, en fait, étaient les personnes clés des gouvernements. C'était en fait les personnes qui étaient consultées par les rois, les empereurs, pour recevoir des conseils. Et un fait important rapporté par les historiens, c'est que personne ne pouvait devenir roi sans l'accord et le couronnement des mages. Les mages étaient, si vous voulez, des faiseurs de rois. Et leur notoriété était connue. C'est eux également qui plaçaient des juges, et qui, ces juges, en fait, contrebalançaient parfois les rois despotes. Ouf, c'est dire quoi un roi despote, les enfants? Ça, c'est un drôle de mot, hein. En fait, un roi despote, c'est un roi qui se conduit mal. Voilà. Hein? Et donc, quand un roi se conduisait mal, eh bien, les mages envoyaient leurs juges pour remettre de l'ordre, si on veut faire les choses simplement. Et les années ont passé, et je crois que Dieu a gardé certains mages fidèles aux enseignements reçus de Daniel, et au fil du temps, et que d'autres mages, par contre, se sont détournés de ces enseignements. Et nous trouvons des mages dans l'Empire romain, et nous en trouvons même un, je crois, dans la Bible, un autre, plus tard, avec Paul. Paul, lorsqu'il est vers le proconsul dans l'île de Crète, est face à un homme qui est appelé Élimas, le magicien. Ça, c'est ce qui est dans vos Bibles. Mais c'est le même mot, Élimas le mage, que dans Matthieu 2, les mages venus d'Orient. C'est le même terme. Et donc, il semble qu'il y avait à cette époque-là encore des personnages qui avaient un pouvoir de conseil, puisqu'il était vers le proconsul, qui étaient donc des mages issus de ces mages. Malheureusement, certains se sont détournés de l'enseignement qu'ils ont reçu de Daniel, ou simplement repris d'autres enseignements qu'ils avaient, puisqu'ils étaient un petit peu issus, disons, de trois religions différentes. Mais bon, là, je m'arrête là, ça nous mènerait trop loin. J'aimerais maintenant faire un lien avec la situation de Jérusalem, avec tout ce que je vous ai dit ici. Parce que maintenant que nous connaissons un petit peu mieux ces mages, nous comprenons mieux que ce groupe de personnes qui arrivent à Jérusalem cause du trouble. Maintenant, on comprend mieux que ce n'est pas juste de la curiosité, mais qui cause du trouble, en fait. Surtout qu'ils devaient être accompagnés, comme certains l'ont laissé entendre dans l'histoire, même d'une cavalerie perse. Donc, ce n'était pas juste trois personnes qui arrivaient, c'était tout un groupe de personnes. Hérode, en voyant arriver ces faiseurs de rois, avait de quoi se faire du souci. Ce n'était pas juste des touristes qui sont venus découvrir la beauté de la Palestine à dos de chameau. Ils annoncent qu'ils cherchent le roi des Juifs qui venait de naître. Et au verset 4, dans Matthieu 2, nous voyons qu'Hérode a bien compris ce que ces faiseurs de rois cherchent. Parce que quand ils demandent où doit naître celui qu'ils viennent de parler, ils disent « Où doit naître le Christ ?» Ça, c'est Hérode qui va demander au scribe, là, « Où doit naître le Christ ?» Alors, est-ce que c'est Hérode qui a compris qu'il s'agissait du Christ ? Donc, Christ qui veut dire Messie. Ou est-ce que c'est les mages qui le lui ont dit ? Je ne sais pas. Mais la Bible nous permet de comprendre qu'il avait compris le message. Nous avons maintenant mieux compris qui étaient ces mages. Et ce que je trouve fantastique, c'est qu'avec ces informations, c'est que Dieu, dans sa souveraineté de l'histoire, a préparé des faiseurs de rois longtemps à l'avance pour manifester au monde que le roi était né. Même aux yeux des faiseurs de rois de l'époque d'Orient, Jésus était un roi légitime. La lignée, quelque part, de ceux qui ont couronné les plus grands empereurs sont là pour reconnaître le grand roi ou le plus grand roi jamais né. En fait, le peuple d'Israël ne reconnaît pas son roi. Là, vous pouvez écrire les enfants. Hein. Le peuple d'Israël ne reconnaît pas son roi, mais Dieu envoie de puissants faiseurs de rois pour le reconnaître. Et Matthieu souligne ainsi que Jésus est roi. Souvenez-vous, Matthieu est écrit pour montrer que Jésus est roi. On comprend mieux maintenant. Donc le peuple d'Israël ne reconnaît pas son roi, mais Dieu envoie de puissants faiseurs de rois pour le reconnaître. Matthieu souligne ainsi que Jésus est roi. Et les mages iront encore plus loin de leur attitude. Mais ça viendra un peu plus tard. Ça viendra un peu plus tard. Donc, on a une longue explication maintenant. C'était long, les enfants ? C'est une longue explication sur les mages, hein, c'est vrai. Mais est-ce que vous avez compris que les mages, en fait, sont des puissants conseillers qui désignent les rois ? Vous avez compris ça ? Et que ces personnes qu'on peut appeler des faiseurs de rois cherchent le roi qui vient de naître et ils vont trouver Jésus. Cela veut dire que la raison de la venue des mages, c'est clairement pour indiquer que Jésus est roi. Ce n'est pas juste pour qu'on ait trois rois mages vers une crèche à Noël. Okay? Continuons maintenant. Je vous avais dit qu'on allait un peu mieux connaître le cheminement pour aller vers Christ en connaissant le cheminement des mages pour arriver à Jésus. C'est notre deuxième point. Comme j'ai dit, ça sera plus court. Nous allons maintenant réfléchir un peu sur ce cheminement. En fait, les mages ont été avertis par une étoile, hein, comme c'est écrit dans le texte. Dieu, quelque part, est allé les chercher dans leur domaine de connaissance où ils l'ont reconnu. Mais les mages ne sont pas restés dans leur fauteuil en Orient en se disant « c'est super sympa d'avoir trouvé cette merveilleuse nouvelle » puis restaient siroter leur thé de Noël dans leur fauteuil. Mais non. Vous savez, les enfants, parfois, nous recevons de bonnes nouvelles. Par exemple, si je vous disais qu'à la place Purie, il y a un bon cadeau, et si vous allez le chercher, vous pourrez acheter tous les jouets que vous voulez. Mais tous, ok ? À la place Purie. Alors restez là encore, hein ? Vous êtes peut-être contents, vous avez de la joie, mais vous êtes à la maison, il fait froid, c'est l'hiver, il y a du brouillard, de temps en temps ici. Vous n'avez pas envie de sortir. Et puis, vous n'allez pas à la place Purie pour acheter, enfin, pas pour acheter, pour chercher ce bon cadeau. Vous n'avez pas envie, vous avez froid, vous n'allez hein, quand même pas y aller. Est-ce que vous pourrez recevoir vos jouets ?
Non.
Ah ben non. Eh ben non. Parce que pour avoir les jouets, il faut se déplacer, même dans le brouillard, même par le froid, pour aller chercher ce bon cadeau. D'accord, hein ? Eh bien, malheureusement, beaucoup de personnes ressemblent à ceux qui ne vont pas rechercher ce bon cadeau. Or, il ne s'agit pas d'un achat de jouets illimités. Ça, c'était une illustration, c'était pour comprendre. Hein. Donc, allez pas à la place Purie pour chercher un bon cadeau maintenant. C'était une image. Mais c'est une image pour, non pas pour un achat de cadeaux illimités, mais pour une vie éternelle. Une vie éternelle, au lieu de la mort éternelle. Et bien plus encore. Beaucoup savent qu'elle existe. Mais ils n'ont pas envie de sortir de leur vie habituelle pour aller vers Jésus-Christ. Mais les mages de Matthieu 2 n'agissent pas ainsi. Non seulement les mages comprennent le message, ah là vous pouvez écrire, comprennent le message, mais ils font leur valise et se préparent pour le voyage et partent jusqu'à Jérusalem. Hein, donc ils ont compris le message et ils font leur valise, se préparent pour le voyage et partent jusqu'à Jérusalem. Ça va, je vous laisse écrire, hein. Ça va vite des fois. Hein. Parce que arrivés à Jérusalem, les mages ne s'arrêtent pas. Ils cherchent. Arrivés à Jérusalem, ils cherchent. Et ils ne s'arrêtent pas de chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent où est Jésus. Alors là aussi, il y a des choses à écrire, vous avez vu. Hein. Arrivés à Jérusalem, les mages cherchent. Et ils ne s'arrêtent pas de chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent où est Jésus. Et dès qu'ils savent où trouve Jésus, que font-ils ? Eh bien, ils vont à Bethléem. Ils vont à Bethléem. Alors moi, il y a une chose que j'ai de la peine à comprendre. Alors je vais vous la dire, puis je vais vous expliquer ce que j'ai cherché à comprendre ici. Mais une chose que j'ai de la peine à comprendre, c'est pourquoi personne de Jérusalem ne suit les mages pour aller à Bethléem ? C'est étonnant. Ça me semble étonnant, surtout après ce que je vous ai dit par rapport au mage. Alors, Il ne nous est rien dit là-dessus dans le texte. La seule chose qu'on voit, c'est qu'un peu plus loin, Hérode fera tuer tous les enfants à Bethléem. Alors, si quelqu'un avait suivi les mages, ben, ils auraient au moins pu lui dire quel était l'enfant concerné. Mais la seule explication que je vois, parce que c'est quand même difficile à comprendre, hein, avec toutes ces personnes qui arrivent, c'est qu'en fait, Hérode était troublé à cause de l'annonce des mages qu'un roi était né. On a compris, ce n'était pas juste un trouble curiosité, c'était un trouble peur. Et il est dit dans ce même verset, « Et tout Jérusalem avec lui ». Bon, est-ce que vous pensez que Jérusalem serait troublée si le roi des Juifs venait, dans le sens d'avoir peur? Je ne pense pas que c'est de trouble-là qu'il s'agit. En fait, le peuple de Jérusalem devait être troublé du trouble d'Hérode. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il allait faire. Hérode était quelqu'un qui était capable de tuer même sa femme. Il l'a fait d'ailleurs. Donc les gens de la ville devaient avoir peur. Et je pense que c'est cette peur qui les a retenus de suivre les mages jusqu'à Bethléem. C'est l'explication que je vois. Il y en a peut-être une autre, ça je ne peux pas vous la dire. Vous la partagerez si vous la connaissez. Mais les mages sont allés à Bethléem où ils ont vu Jésus, le roi. Les gens de Jérusalem ne sont pas allés à Bethléem et n'ont pas vu Jésus, le roi. Et là, c'est vrai qu'on a une question qui peut se poser à nous. Qui allons-nous imiter? Si je dis que Jésus est le roi, le sauveur du monde, que feras-tu? Feras-tu comme les mages? Viendras-tu vers lui pour lui confier ta vie? Ou feras-tu comme les habitants de Jérusalem, ayant peur de la famille, des amis, des collègues, de que dirait-il, que ferait-il si j'allais vers Jésus? Les mages nous donnent ici un exemple et nous invitent non seulement à comprendre le message de Dieu, mais à y répondre en allant là où Dieu les dirige. Et pour nous comme pour eux, c'est vers Jésus-Christ. Alors, est-ce que vous avez compris, les enfants, ce que les mages ont fait? Les mages ont compris, donc en voyant l'étoile, hein, ce que Dieu leur a montré en mettant cette étoile dans le ciel. Ils sont partis faire un long voyage et ils ont cherché jusqu'à ce qu'ils ont trouvé. Ça, c'est le cheminement des mages qui est un exemple pour nous aussi. Ensuite, nous parlerons de la générosité des mages envers Jésus. Savez-vous ce que veut dire être généreux, les enfants? C'est quoi être généreux?
Donner des choses.
Donner des choses. Ah, c'est bien ça. Donner des choses, c'est déjà bien. Hein? Être généreux, c'est donner, on pourrait même dire donner beaucoup. Mais je dirais aussi, c'est donner tout ce que l'on peut, sans regret et sans penser que l'on perd quelque chose. Ça, c'est vraiment être généreux. Parce que si on donne en pensant qu'on perd quelque chose et en regrettant, et en se disant j'aurais bien voulu l'avoir, il n'y a pas beaucoup de générosité. La générosité, c'est lorsque l'on donne ce que l'on peut, sans regret et sans penser que l'on perd quelque chose. Alors, qu'est-ce que les mages donnent à Jésus? Vous savez ce qu'ils donnent à Jésus? Ah, ça, je l'attendais, celle-là. Mais il y a d'autres choses qu'ils donnent. Alors, on en parlera, tu as raison, mais ils ont donné d'autres choses avant. Les mages, en fait, lui donnent leur temps. Parce que ce voyage qu'ils ont fait pour lui, pour aller voir où était Jésus, n'est pas un voyage qui a duré quelques minutes. Il a duré des jours. Je ne peux pas vous en dire plus, parce que peut-être c'est des semaines, mais ça, je ne peux pas le dire. Mais il a duré un certain temps. Et tout ce temps, ils l'ont donné pour rencontrer, pour aller voir Jésus. Donc, c'est du temps qu'ils ont donné pour lui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore donné, les mages? Sauf l'or, l'encens, la myrrhe, on verra tout à l'heure. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont encore donné d'autre? C'est un peu plus difficile, hein? C'est peut-être les plus grands qui réfléchissent et qui peuvent aussi penser à ça. Les mages, en fait, donnent leur adoration. Leur adoration. C'est très étonnant, en pensant à ces faiseurs de roi. Normalement, un faiseur de roi, quand il arrivait, qu'est-ce qui se passait? Le roi se mettait, le futur roi se mettait à genoux, c'est eux qui le couronnaient, hein, et puis ensuite, il était reconnu comme roi. Là, le protocole n'est pas tout à fait respecté, en fait. C'est eux-mêmes qui se mettent à genoux devant le roi. Et non seulement ils se mettent à genoux, mais ils vont même l'adorer. Quand je réfléchissais à ça, vous pouvez le faire avec moi, réfléchissez des personnes qui ont une sagesse extraordinaire, qui se retrouve devant un bébé. C'est un enfant, c'est un bébé. Et qui voit en lui un roi. Moi, je trouve que c'est une foi extraordinaire. C'est une foi extraordinaire. Il voit ce bébé, et non seulement il le voit comme un roi, mais il le voit comme un roi particulier que l'on peut adorer. Les mages donnent donc de leur temps, ils donnent leur adoration, et que donnent-ils d'autre? Alors maintenant tout le monde le sait bien sûr, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont en fait des cadeaux pour un roi. Alors, je ne m'arrêterai pas aujourd'hui sur ce que ça pourrait signifier ou sur l'utilité, etc. J'aimerais juste qu'on retienne que c'est un cadeau qui a été fait ou des cadeaux qui sont faits pour un roi. Et là, c'est vrai que cette générosité des mages envers Jésus nous laisse avec une question pour nous aujourd'hui. Que donnons-nous à Jésus-Christ? Que donnons-nous à Jésus-Christ? Et je vous avais promis que nous allions aussi encore observer leur action, courtement. Leur action influencée par Jésus. Les mages cherchent Jésus, le roi des Juifs. Et ils annoncent qu'ils sont venus pour l'adorer. Ils ne cachent pas leur intention. Ils n'ont pas peur de le dire. Hein. On vient chercher le roi des Juifs. Ils n'ont pas mis des petits espions pour dire « il ne faut pas trop qu'on le dise ». Non, non, ils le disent très clairement. Ils cherchent le roi des Juifs. Ils ne cachent pas leur intention. Et lorsqu'ils arrivent devant Jésus, à Bethléem, qu'est-ce qu'ils font? Alors là, vous devrez noter quelque chose, les enfants. Les mages se prosternent en signe d'une grande révérence, en signe de soumission, de grand respect. Les mages se prosternent devant Jésus. Voilà une des actions qu'ils font. Ça va jusque-là? Vous suivez, hein? C'est ce qu'on a dans le texte. Hein? On va simplement essayer de comprendre ce qu'il y a aussi comme richesse derrière tout cela. Et il y a une chose dont on n'a pas encore parlé, c'est la fin du texte. À la fin du texte, il est dit en fait que Dieu, par un songe, parle à ses mages, il leur dit de rentrer par un autre chemin, de ne pas revenir par Jérusalem et dire à Hérode où ils ont trouvé Jésus, etc. Et ça me fait penser que lorsque nous rencontrons Jésus, Dieu nous fait aussi changer de chemin. Il nous fait changer d'orientation en fait. Lorsque nous avons rencontré Jésus, nous ne suivions plus le chemin du monde. Nous empruntons un autre chemin qui part de Jésus-Christ pour aller vers Jésus-Christ. Ça fait un peu drôle ça, hein? Mais quelque part qui part de Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui s'est donné pour que nous puissions être sauvés, et qui va jusqu'à Christ qui est monté au ciel glorifié. Nous ne cherchons plus à plaire aux autres, nous cherchons à plaire à Christ. Nous ne cherchons plus à nous réaliser, nous cherchons à ressembler toujours plus à Christ. Les mages ne sont pas rentrés par le même chemin. Ils ont rencontré Jésus, ils l'ont adoré, et ils ont été avertis et ils ont obéi à Dieu. Voilà une chose aussi à écrire les enfants, hein. Et ils ont obéi à Dieu. C'est pour nous donc un grand exemple ces mages. Donc en conclusion, j'aimerais juste qu'on reprenne les quelques éléments qu'on a vus ce matin. En étudiant qui sont les mages, nous avons mieux compris que Jésus est roi. Les mages, ce n'est pas des touristes, mais c'est des faiseurs de rois. Et même si Israël ne reconnaît pas son roi, Dieu envoie des personnages importants pour le faire dès la naissance de Jésus. Deuxièmement, en réfléchissant à leur cheminement pour arriver à Jésus, nous avons mieux compris ce que c'est d'aller vers Jésus le roi. Les mages reconnaissent le signe dans le ciel. Nous avons un signe, en fait, c'est la parole de Dieu. Ils partent et vont chercher Jésus jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Troisièmement, en regardant leur générosité, nous comprenons mieux aussi ce que le roi Jésus mérite de notre part. Et quatrièmement, en observant leur action, nous comprenons mieux ce que signifie vivre pour le roi. Il s'agit d'adorer le roi et le Seigneur du monde, et de prendre le chemin que Dieu nous montre. Alors que ce temps de Noël soit pour chacun d'entre nous un moment particulier où nous nous approchons de Jésus-Christ par la foi, comme les mages, en le considérant comme le roi qu'il est. J'aimerais prier avec vous. Notre Seigneur, notre Dieu, ce matin nous avons pu constater une fois de plus que tu maîtrises toute l'histoire. Nous cherchons à préparer l'avenir des enfants que tu nous confies. Nous préparons, Seigneur, leur formation, afin qu'ils puissent un jour aussi être des personnes qui eux-mêmes puissent préparer d'autres personnes. Mais Seigneur, toi, tu peux faire bien plus. Tu peux préparer depuis des générations à l'avance, afin d'être actif dans l'histoire, au moment voulu, comme tu le veux, pour manifester pleinement que Jésus-Christ est réellement le roi. Merci pour Matthieu, cet évangéliste qui nous donne ce témoignage, parce qu'il veut vraiment que nous comprenions que Jésus-Christ est le roi. Et j'aimerais, Seigneur, te prier simplement de nous donner cette grâce, de t'adorer, de nous prosterner devant toi, de nous prosterner devant Jésus-Christ, qui est le roi, le sauveur, le Seigneur. Oh Seigneur, que ce temps de Noël ne nous rappelle pas simplement la venue au monde dans la crèche de Jésus-Christ. Nous en sommes reconnaissants et nous voulons nous en rappeler, mais non seulement sa venue comme petit enfant, mais toute son œuvre et même sa position actuelle, afin que nous puissions saisir ce merveilleux évangile et détourner notre chemin de tout ce qui est joli pour un petit moment, mais qui passe, pour saisir le bonheur éternel en Jésus-Christ. Sois Seigneur loué et béni, que ce temps de Noël soit un temps réellement joyeux. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.